Salut les amis.
Salut Charline.
Aujourd'hui on reçoit Jean-Jacques Vanier.
Oh mais c'est mon idole.
Tu dis ça à chaque fois qu'on a un humoriste qui est passé sur Inter.
Ouais mais on peut avoir plusieurs idoles.
Ouais enfin bon.
C'est vrai, t'as dit ça pour Rolin.
Ah bah ça c'est mon idole,
ouais,
François Rolin.
T'as dit ça pour Louis Rego aussi.
C'est mon idole, Louis Rego.
T'as aussi dit ça pour François Morel, je crois.
Alors ça m'étonnerait.
Ah bon?
Bah c'est pas encore mon idole.
Bah pourquoi?
Bah parce qu'il est toujours sur Inter. Et,
ah oui d'accord, j'ai compris.
Ouais, Patrick Cohen, bah ce sera bientôt mon idole.
Il est pas comique Patrick Cohen.
Bah
ah oui si. Bah vous avez raison.
Mais Jean-Jacques Vanier, ça c'est vraiment c'est mon idole.
Bon bah tu lui diras, enfin pas trop. Okay. Hein. Moi quand on a reçu Florence Omna, j'ai su le tenir. Hein. Enfin un minimum quand même. Okay. Bon alors il est où Guillaume?
Il est en interview.
Ah bon. De qui?
Ah, on sait pas. Vous savez pas?
Non.
Pourquoi tu me fais un clin d'œil?
Oui, mais pourquoi tu fais un clin d'œil à Charlie?
J'ai pas fait de clin d'œil.
Si, t'as fait un clin d'œil.
Vas-y, dis-nous, Alexis peut savoir.
Bien sûr.
Bon alors d'accord, Guillaume a été interviewé quelqu'un.
Et quoi?
Bah apparemment Alex l'aime bien, il va être ému.
Aïe. Mais c'est qui?
Bah c'est Francis Lalanne.
Aïe. Aïe. Non mais qu'est-ce qu'il y a Alex?
Mais c'est mon idole.
Non.
Reste avec moi.
Calme-toi Alex, calme-toi et puis surtout ne dis pas à Jean-Jacques Vanier que ton autre idole c'est Francis Lalanne hein.
Ah bon? Je vois pas pourquoi.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui ne se lasse pas d'attendre sur le perron de l'actualité. Et voici les trois informations qui ont été nommées jusqu'à 18h. Qui sont les ministres du nouveau gouvernement? Qui sont les nouveaux personnages de notre petit théâtre politique? Qui va morfler pendant 5 ans ou moins? Quoique chaque ministre est passé au scanner de la probité.
Entre parenthèses, j'espère que vous avez casé tout ce que vous vouliez caser. Hein, parce que moi, je compte pas accueillir les oncles, les tantes et toute l'équipe.
La sauce tomate d'Italie vient de Chine, d'Espagne ou de Californie. Car une partie de l'industrie de la tomate est aux mains de la mafia. C'est ce qu'on appelle l'agromafia. Dès lors, que faire pour préparer la riposte du consommateur?
À mon humble avis, mon cher Dixon, les tomates sont en train de se regrouper pour l'attaque finale à travers la nation.
Bruxelles a installé à plusieurs carrefours de la ville des feux de signalisation à deux bonhommes de même sexe et des passages piétons aux couleurs du drapeau gay. Et si Paris faisait pareil?
Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France.
Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui mord l'actualité comme les gaufres à pleines dents, c'est Alex Vizorek.
Et c'est peut-être lui la décadence. Bonjour Charline Valounaker et autour de la table, belle équipe. 17h20, il est de retour parmi nous et c'est peut-être dû au fait que personne d'autre n'en a voulu. C'est le génie musical de l'émission, si c'est André Manoukian.
Si vous saviez Alex, bonjour Alex, bonjour Charline.
Dites-nous de quoi vous allez nous parler.
Je vais vous parler d'un génial pianiste belge qui s'appelle Éric Lénini. Eh oui.
La ministre de la culture est belge et direct on s'intègre. Bien joué. 17h30, la vie c'est aussi des rencontres. Et ça, il s'en est bien rendu compte bien aujourd'hui sûr. Puisqu'il a rencontré le seul homme qui a placé le mot anathème dans une chanson française. C'est vous Guillaume Meurice.
C'est surtout Francis Lalanne que j'ai rencontré ce matin. Francis, mais pas le chanteur, hein. Francis Lalanne, le politique.
Francis Lalanne est anarchiste.
Oui, l'anarchiste, voilà, qui se présente aux élections. Donc.
Et on me dit dans l'oreillette que Mylène Farmer aussi avait placé anathème. On a notre précis dans cette émission. Et à 17h40, l'homme qui est très déçu, puisque contre toute logique, François Fillon n'est pas entré au gouvernement aujourd'hui. C'est vous, Pablo Mira, bonjour.
Vous pouvez le dire, salut Alex, bonjour à tous. Alors, initialement, j'avais décidé de vous parler de Sylvie Goulard.
De qui?
Voilà, vous voyez, c'est bien le problème. Du coup, j'ai changé d'avis, on va parler des JO de 2024. À l'heure.
Et voici celui qui va présider notre exécutif. Vous passez par La Classe de Fabrice sur France 3, puis dans Rien à cirer de Laurent Ruquier sur cette antenne dans les années 90. En 95, vous rencontrez le réalisateur Manuel Poirier qui vous fera jouer dans plusieurs de ses films, dont Western. Ensuite, vous montez votre spectacle Mon journal intime, mis en scène par François Rolin, le complice qui vous accompagne à la création de À part ça, la vie est belle, Festoff et bien sûr en 99, L'envol du pingouin. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Jean-Jacques Vanier.
Oh la chance.
Non.
Classe.
Mais si, mais oui.
Sur France Inter, c'est lui. Charline Valounaker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bienvenue Jean-Jacques Vanier.
Merci de me recevoir, Charline.
Dans cette maison que vous connaissez bien. Vous avez travaillé avec qui dans cette maison?
J'ai révisé tous les noms avant de venir.
Vous avez travaillé avec Laurent Ruquier, vous avez travaillé avec Stéphane Bern.
J'ai travaillé avec Laurent Ruquier, je parle que des patrons. Laurent Ruquier, Stéphane Bern, Isabelle Giordano et puis Chris, qui, avec qui on avait fait une émission très très belle, qui n'était pas forcément drôle, mais qui était vraiment belle. Et puis encore une, Brigitte Patient.
Voilà, Jean-Jacques Vanier, qui connaît bien la maison. Et vous allez jouer la millième et la dernière de votre spectacle culte, L'envol du pingouin. Et ce sera à l'Olympia, le 6 juin à 20h30. Et Alex Vizorek connaît, vous connaît par cœur.
Mais oui, mais c'est vraiment, quand je dis vous êtes mon idole, vous êtes une des personnes qui m'a donné envie de faire du sol en scène. Il y a une petite
merci
dizaine d'années.
Merci beaucoup.
Je suis désolé. Il y a une petite dizaine d'années, Télérama offrait pendant cette semaine les meilleurs spectacles comiques qu'ils estimaient de l'histoire, et vous étiez dedans, et donc je regarde L'envol du pingouin, moi je vous connaissais pas beaucoup, et je trouve que c'est formidable, je ris seul, oui peut-être aussi, je ris seul, et donc aujourd'hui, c'est la dernière chance de voir ce spectacle, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pour ceux qui vous connaissent pas, comment on leur donne envie?
En fait, j'ai résumé le truc, il y a deux sortes de personnes qui vont venir à l'Olympia voir L'envol du pingouin, ceux qui l'ont déjà vu,
moi,
et ceux qui viendront, parce que ceux qui l'ont déjà vu vont leur dire de venir. En gros, c'est ça, quoi.
Donc, c'est un coup marketing, du coup.
Non, mais ça me fait plaisir que les gens aient envie de revenir. Ils me le disent sur Facebook et tout ça. J'ai ma place. Et puis, l'autre jour, j'ai rencontré un monsieur dans le train qui me dit, mais oui, je l'ai vu, je vais venir, je vais emmener mes enfants. Et il m'a et vraiment, ce mec, je ne connaissais pas, il m'a rappelé et il a pris 10 places, il amène toute sa famille. Voilà.
Mais c'est génial parce qu'il n'en parle pas. Hein.
Oui,
c'est,
j'allais
c'est
dire, ça, il n'a pas du tout répondu.
L'art du teasing,
et c'est très difficile de résumer ce spectacle. Si on
ah, c'est ça la question.
Moi, je peux dire aux gens, allez-y, mais c'est mieux s'ils savent à peu près ce qu'ils vont voir.
Le spectacle, effectivement, il n'est pas résumable. Et
si c'est votre personnage.
Si on parle là-dessus, on en a pour une petite demi-heure.
Qui est un personnage un peu lunaire et qui...
Mais en gros, c'est le condensé de tous les ratages d'une vie.
C'est pour ça qu'il fallait jouer longtemps.
Et la deuxième partie du spectacle, c'est le condensé de comment faire pour se rattraper, quoi. Et pour bien finir sa vie.
C'est la vie de Manuel Valls ou pas? Il y a aucun rapport ou c'est...
D'ailleurs, c'est très dur ce qui se passe en ce moment parce que... Nous, les quinquas, les sexas, on avait misé sur ça, tu vois, sur le jour où t'aurais 50 ou t'aurais 60, et enfin, tu y arriverais, quoi, t'aurais ta place quelque part. Et puis maintenant, c'est tout pour les trentenaires, tu vois.
Bon, c'est là, vous faites l'Olympia, mon petit Vanier. C'est la millième. Et le spectacle a été créé en 99, donc il a 18 ans.
Oui, je me suis même trompé. On m'a corrigé. Il a été créé en 98. J'avais oublié. Donc il a presque 20 ans en fait.
Ouais. Comment on rejoue un spectacle qu'on a créé il y a autant de temps? Est-ce qu'il y a autant de plaisir ou est-ce que là ça fait longtemps que vous l'avez pas joué? Vous imaginez que c'est...
Il n'y a pas si longtemps. Hein, je l'ai joué à Nantes la semaine dernière. Ah, je suis allé me préparer en fait un petit peu pour cet Olympia. Je suis allé le rejouer.
En fait, l'acteur Jean-Jacques Vanier, il n'est pas le même que celui d'il y a 20 ans.
J'ai jamais arrêté de le jouer, ce spectacle. Et surtout, j'ai jamais arrêté de le créer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le joue, je répète l'après-midi. Je me fais un filage dans ma tête, sur le plateau. Un filage muet. Et là, je trouve des nouveaux trucs, des nouvelles façons d'interpréter. C'est tout. Et ça rend le spectacle neuf tous les soirs. Et même le 6 juin à l'Olympia.
C'est le 6 juin, tout à fait, à 20h30. C'est la millième et la dernière de L'envol du pingouin de Jean-Jacques Vanier et François Rollin, qu'on salue. Vous êtes sur France Inter, un petit Gainsbourg, avant de parler gouvernement, sauce tomate et feu de signalisation. Oui, on est avec Jean-Jacques Vanier, hein, si vous voulez.
J'avoue, j'en ai bavé pas pour love avant d'avoir le vent de vos love. À votre avis, qu'avons-nous vu love? Vous, à moi, vous m'avez eu love. Hélas, avril, en vain nous vous love. J'avais envie de voir un vous love. La vie. J'avoue, j'en ai bavé par vous love avant d'avoir eu vent de vous love.
Remake de la javanaise, c'est-à-dire que vous prenez la javanaise et vous mettez love entre toutes les phrases, ou entre tous les mots. C'est Serge Gainsbourg.
Comment elle clash,
ouais, je clash Serge Gainsbourg sur France Inter, avec Jean-Jacques Vanier qui nous accompagne jusqu'à 18h. Il s'apprête à offrir la millième de son spectacle L'Envol du Pingouin à l'Olympia, le 6 juin, et pour entourer le maître.
Mais que des rigolos, il y a André Manoukian, regardez comme il est amusant. Hein, on a l'absurde Guillaume Meurier, c'est quand même le non moins pertinent, Pablo Mira.
Et de l'information subjective.
Le président de la République a nommé...
Le journal de presque 17h17.
Premier ministre.
Mais vous êtes marteau.
Il a chargé de former le nouveau gouvernement.
Et on commence par les titres.
Le gouvernement est arrivé, c'est Gérard Collomb qui hérite donc de l'intérieur.
Ouais, en même temps, c'est cohérent, hein, Collomb, à l'intérieur.
Ça démarre fort, c'est mignon. Et le républicain, les républicains, Bruno Le Maire a donc été nommé ministre de l'économie.
Oui, alors là, attention, parce que vu comment les républicains gèrent l'argent d'habitude, il va falloir être vigilant.
Est-ce qu'il y aura des brèves?
Oui, parce que je suis déçu de ne pas avoir été nommé secrétaire d'État aux brèves. Et on commence par un gros cocorico.
Ah bon?
Mais le ministre, enfin la ministre de la Culture est belge, Françoise Nyssen. Oui, bah elle est née à Bruxelles, voilà, elle est peut-être pas belge, mais elle est née à Bruxelles, donc je suis bien placé pour savoir qu'a priori c'est de là que viennent les meilleurs. Donc chapeau, solidarité.
Nicolas Hulot avait refusé d'entrer au gouvernement sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande, et cette fois il y va.
Mais il n'a pas eu le choix, c'était sa troisième offre d'emploi, et donc sous Macron, on ne peut plus le refuser.
C'est vrai. Gérald Darmanin entre également au gouvernement. Lui qui est un grand défenseur de l'abrogation du mariage pour tous.
Et c'est un très beau symbole en cette journée mondiale de la lutte contre l'homophobie.
Jean-Yves Le Drian a conservé son poste de ministre de la Défense sous Hérault, sous Valls, sous Cazeneuve. Et là, il devient ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Oui, Le Drian, c'est pas un Marocain qu'il a, c'est un CDI.
Le Drian, Collomb et Bayrou aussi à la justice.
Oui, le gouvernement est en marche, mais avec un petit peu d'arthrose quand même. Hein. Mais voilà, il faut le faire.
Passons aux élections législatives.
Oui, hein, on laisse le gouvernement derrière, on l'attendait. L'annonce est tombée.
Ouais, Jean Lassalle est candidat à l'Assemblée.
Ouf, ça aurait été bête de se passer de Jean Lassalle. Et on espère qu'il va débattre avec Francis Lalanne un moment ou à l'autre.
Tout le monde n'est pas sorti indemne de cette élection présidentielle.
Et oui, malheureusement, Nicolas Dupont-Aignan, il était hier sur Europe 1.
Je ne me suis pas rallié au Front National. Je ne me rallierai jamais au Front National.
Là, on est dans du déni.
Oui, et oui, et c'est normal, c'est la première phase du deuil.
Première phase du deuil, courage Nico.
Autre interview ce matin sur France Info.
Oh là là, Jean-Michel Apathy recevait Cécile Duflot, requinquée, belle forme. Elle en a même profité pour, au passage, lui donner une petite leçon de journalisme à Jean-Mimi.
Je vais vous répondre, je ne veux pas vous répondre, c'est français ça. Vous posez une bonne question, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une bonne question, mais là vous venez de mettre trois si, et en fait moi je ne réponds pas à des questions où il y a trois si, parce que ce n'est pas des vraies questions, c'est une espèce de fantasme politique.
Voilà, elle répond aux vraies questions, elle est bien.
En région à Béziers, une victoire pour Robert Ménard.
Mais oui, l'analyse ADN des crottes de chiens est autorisée par la justice.
Fichage génétique des chiens de Béziers pour sanctionner ceux qui ne ramassent pas les déjections.
Les chiens seront un petit peu stigmatisés à Béziers, et je serai un lévrier afghan. Je pense que ce serait très compliqué de rester là-bas.
Une info pratique à présent, c'est aujourd'hui le dernier jour pour ceux qui font leur déclaration de revenus sur papier.
Eh oui, message de soutien donc à Thomas Thévenoud. Tu peux le faire. Accroche-toi.
Sport à présent, Karim Benzema a donné une interview dans l'équipe. Toujours il aimerait retrouver la sélection des Bleus et précise qu'il a déjà échangé des SMS avec Emmanuel Macron.
Ben oui, bon, avec Benzema, c'est mieux d'échanger des SMS que des vidéos.
Parce qu'il en apporte toujours Roland Garros. Oui. Maria Sharapova ne pourra pas participer au tournoi parisien. Elle a été privée d'invitation.
Ah, alors moi, j'en ai des invitations, là, si, éventuellement.
Oui. Maria on a voilà, compris.
C'est pour dépanner.
Merci, allez, une brève.
Allez, une brève. Avec ce titre, Sud-Ouest, ils épluchent les avis de décès et cambriolent durant les enterrements. Et ça, c'est. Oui, mais c'est, la, France. Oui, c'est la France de Macron. L'ubérisation des frais de notaire.
Avec Jean-Jacques Vanier, on va aborder ce premier sujet.
Jean-Jacques Vanier qui levait le doigt pendant le journal et vous vouliez intervenir sur quelque chose ?
Non.
Il a des tocs.
Éventuellement, j'avais une brève. Si
attention là.
Je me suis préparé quand même.
Allez-y.
J'ai pris mon ancien costume. Bref. Vous savez comment on fait pour avoir des ministres honnêtes ?
Non.
Ben, on les prend jeunes.
Ça marche.
Pas mal, non.
Bien sûr. Et alors là, est-ce que c'est
une erreur qu'a fait le gouvernement
Est-ce que c'est le cas
Pas que.
Il y a de tout. Ils sont passés au scanner. Justement, on va en parler. La France a ce nouveau gouvernement avec notamment Bayrou, Le Maire, Darmanin, Marielle de Sarnez, ça fait rêver. Nicolas Hulot, numéro 2 du gouvernement, ministre de la Transition écologique. Et pour la passation de pouvoir, Nicolas Hulot, il n'aura pas besoin de BFM, ça il peut gérer tout seul.
Allons-y, c'est parti. Et bien voilà, je suis actuellement sur la rue Bellhomme. Nicolas... Actuellement, je suis sur le trottoir. Je ne prends pas trop de risques.
Toute l'équipe ici te demande de faire très attention à toi.
Je vais essayer de faire attention, mais là, attention, ça y est, je viens de tourner là dans le boulevard Barbès actuellement.
Oui.
Il y a beaucoup de monde, vous le savez. C'est actuellement le coin de long recul. Je ne peux pas faire demi-tour. Je vais tenter, c'est la tâche la plus difficile et la plus terrible qui m'ait été donnée de faire. Je vais le faire actuellement pour TF1. Pour moi, pour mon image de marque, et pour la France, je le fais.
Bernard Campan, les inconnus, bien sûr. Vous avez senti, Jean-Jacques Vanier, cette fébrilité de l'attente de tous les médias du pays pour la composition du gouvernement depuis plusieurs jours déjà. Est-ce que vous avez jeté un œil à cette composition qui est arrivée à 15h pile?
J'ai senti, ouais, j'ai pensé que vous y étiez pour quelque chose, que c'est pour votre émission qu'il l'avait fait à 15h.
Mais oui, on a nos entrées.
Elle a le bras long, Charlie.
On a nos entrées, Jean-Jacques Vanier, vous rendez bien compte.
Hier, on a eu peur que ça tombe, parce que comme il prenait du retard, et puis il a dit hop, ce sera pour aujourd'hui 15h, et était 15h pile.
Pile, c'est vrai. Il a fallu d'abord passer au scanner tous les ministres pour être sûr que
ne
découvre rien au Panama.
Moi, ça me fait très peur, c'est que si le gouvernement veut des ministres intègres, honnêtes, c'est qu'ils vont faire des choses très dures.
Ah.
Il faut qu'ils soient irréprochables.
Vous êtes au coup d'après, vous.
Oui, c'est dur, mais nous, on est clean.
Mince. Et on ne devrait pas manifester dans la rue pour avoir des ministres corrompus?
Si.
Oui, c'est vrai, ça serait bien pour
ça
nous.
Ça apaiserait le pays, quand même, c'est vrai.
J'en ai plus l'habitude.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans cette composition? Quelque chose que vous retenez? Bayrou qui est de retour, Nicolas Hulot qui arrive?
Ça fait un petit peu... je t'ai rendu service et je te file un ministère, quoi. C'est un peu, j'ai voté pour toi.
Surprends personne.
Donne-moi une place, quoi. Mais je pense que ça va changer juste après les législatives. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, plus la moitié qui vont être remerciés.
Ah bon, carrément, vous pensez?
Ça me semble logique.
Ça dépend des résultats, attendu. Oui. Ouais. Ça dépend des résultats.
Donc ne démarrez pas trop vite.
Donc, ne
vous foulez
jours,
rien.
Voilà.
Ne prenez pas par cœur les noms de tout le monde.
C'est vrai. Et donc François Bayrou qui revient à la justice et il est numéro 3 du gouvernement. C'est l'éternel numéro 3. François Bayrou, c'est quand même assez fascinant. Et votre ministre de la Culture, Jean-Jacques Vanier, Françoise Nyssen, PDG d'Actes Sud.
Elle est belge.
Mais écoutez, tant mieux parce que j'ai eu peur qu'on ait... j'avais eu des bruits comme quoi on allait avoir Philippe Val. Alors là, j'ai eu très peur... J'ai pris mon billet pour le Canada.
Peut-être qu'on aurait été secrétaire d'État parce que c'est lui qui nous a mis l'antenne, donc il nous aime bien.
Et non, je ne la connais pas, Madame Nyssen.
Nous non plus. Quelqu'un la connaît?
Nous non plus.
André Manoukian.
Qui connaît tout le monde.
Actes Sud, c'est une super maison d'édition.
Malin.
Il y a tous les bouquins de mes écrivains préférés, il y a Laurent Godet, tout ça. Et puis voilà, quoi, c'est bien d'avoir de la littérature qui revient un petit peu à la culture.
C'est vrai. Il est 17h28 à Arles, à Paris, sur France Inter, avec Jean-Jacques Vanier qui nous accompagne. Et André Manoukian, ça y est, vous êtes de retour.
Mais oui,
quel plaisir.
Vous m'avez tellement manqué. Je vais vous parler d'un pianiste formidable. possible. Alors, les musiciens, ils ont un problème. Ils ont toujours vécu dans une double contrainte. Celle d'aller au bout de l'apprentissage savant que requiert la pratique de leur instrument et celle de plaire au public qui s'en fout des règles de l'harmonie mais qui entend et qui vibre s'il est pris par le charme. Avant Jean-Sébastien Bach, à qui Dieu doit tout, la musique était devenue tellement sophistiquée que seuls les musiciens pouvaient l'écouter. Ça s'appelait l'ars subtilor. Écoutez, Guillaume Meurice, un petit peu de...
Hein,
oui. L'ars subtilor. Oui, oui. Jean-Sébastien, il dit stop, on arrête le délire. On commence déjà tous par nous accorder parce qu'on était arrivé à un tel point que des musiciens de deux villes différentes ne pouvaient pas jouer ensemble parce qu'ils accordaient leurs instruments différemment. Jean-Sébastien invente le tempérament, le clavecin bien tempéré, c'est lui. Jean-Sébastien, c'est un peu le Macron de la musique. Il casse les codes et il dit « on essaye d'avancer ensemble ». Il simplifie les suites d'accords. Et d'ailleurs, comment on appelle une suite d'accords, hein, Guillaume ?
Une numérisation.
On appelle ça une marche harmonique. Étonnant, non ? Donc la musique...
En marche harmonique.
La musique avant Bach, c'est un vrai bordel. Bach simplifie tout. Grâce à lui, la musique va pouvoir se déployer jusqu'à donner des architectures tellement puissantes que de véritables cathédrales soniques vont se construire. En plus de ça, Bach et tous ses copains baroques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils improvisent. Vous voyez où je veux en venir ? Au bout de la musique dite classique, il y a le jazz. Jusqu'à ce que le jazz, à son tour, à force de se sophistiquer, soit devenu une musique imbitable pour le commun des mortels. C'est l'impasse du free jazz. Pourquoi impasse ? Parce qu'on n'a pas pu aller plus loin. Quand on abroge la tonalité pour le dodécaphonisme, c'est-à-dire qu'on utilise les 12 demi-tons, plus de repères, plus de mélodies, alors il faut un retour vers le passé. Aux États-Unis, les frères Marsalis proposent une relecture des classiques depuis la Nouvelle-Orléans. Eric Lenini, pianiste italo-belge, a une autre approche. Il a été au bout de son instrument. Le bebop n'a plus de secret pour lui, ni les extensions harmoniques savantes, ni le swing implacable. Alors que proposer quand on arrive à une telle maîtrise pour faire vibrer les gens ? Il choisit son camp, le groove. Le groove, les anciens appelaient ça le swing. Ça consiste à jouer avec le temps. Le découpage régulier d'une mesure à travers des noirs ou du crush offre une infinité de variations subtiles en jouant avec l'espace entre deux notes. Si on les rapproche un petit peu, on dit qu'on joue devant. Si on les éloigne, on dit qu'on joue derrière. Et soudain, Charline, on provoque une suite de mini-vertiges. On a l'impression de perdre pied, de se rattraper au dernier moment. Et là, on sent des picotements dans le bas-ventre. Votre bassin commence à se déhancher à la recherche de son africanité perdue, et vous voilà saisi.
Oh oui, André.
Et vous voilà saisi par le dieu du groove. Le dieu du groove, je le dis, il est belge, il s'appelle Eric Lenini. Il a sorti son Fender Rhodes, ce piano électro-acoustique inventé dans les années 70 par un savant fou qui s'appelait Charlie Zion Perlman, et Herbie Hancock jouait de ce piano. C'est sur les traces de son groupe électrique à Herbie, les Headhunters, qu'Eric Lenini dirige sa nef funky, avec des invités prestigieux comme les chanteurs Michelle Willis, Yael Naïm, Nathalie Williams, Anaël Potvin, Charles X, Hugh Koltmann et Ibrahim Malouf. Aussi aujourd'hui, l'invention, un peu à la manière de Jean Seb autrefois, c'était de reprendre la voix des anciens en l'épurant pour en retenir la substantifique moelle. En écoutant ces lignes pures de basse, ces riffs de clavier électrique affûtés comme des flèches, ces contre-chants tricotés avec des doigts experts mais bienveillants. Car toujours chez Eric Lenini, la mélodie reste une préoccupation. On a la quintessence de ce qui fait planer et réjouit le cœur. Des diablotins vous envahissent, vous secouent la moelle, vous avez compris, cette musique me touche, vous hérisse les épidermes et ça vous ouvre les chakras du cul. Oui, ça y est, vous groovez. Un peu comme notre Premier ministre derrière son bureau du Havre. Hier soir, vous avez vu le doc sur France 3, il nous reprenait Manish Boy de Muddy Waters en tapant à peu près en rythme sur son bureau. Bon, Wax Up, le dernier album d'Eric Lenini, on écoute The Wire avec Ibrahim et sa trompette magique. We'll be right back.
par Éric Lénini avec Ibrahim Malouf, présenté par André Manoukian.
Voilà, c'est vrai qu'Éric accompagne Ibrahim dans son quintet, mais là, quand il est soliste, c'est magnifique. Les années 70, dans tout leur foisonnement électrique et tous ces enchaînements d'accords psycho-érotiques. Charline, ça me remue.
Mais il est bien posé, Manoukian.
Oui, oui. Et on vous retrouve demain, André, bien sûr. Mais vous restez avec nous parce qu'on a un sujet sauce tomate qui nous attend. Mais bien sûr, un sujet sur la mafia de la sauce tomate. Mais avant ça, parce que Jean-Jacques Vanier est avec nous, donc on va pouvoir partir dans la stratosphère avec le pingouin qui s'envole une dernière fois à l'Olympia le 6 juin. C'est la 1000e du spectacle culte. Pablo Mira, respirez parce qu'on aura besoin de vous. Alors, dans
c'est
peu
juste
de temps.
Qu'il y a eu du vide dans les yeux d'André pendant 2 secondes. C'était magnifique comme spectacle.
Alex, oui. Remettez l'église au milieu du village.
Moi, j'attends ce moment avec impatience, monsieur Meurice.
Eh bien, oui. Alors, vous le savez, j'ai une passion dans la vie, hein, c'est emmerder Manuel Valls. C'est un truc que j'aime quand même bien faire. Mais bon, là, c'est vrai que ça devient compliqué. Le pauvre homme, il a atteint le stade ultime de l'humiliation. Même des nouilles dans le slip chez Hanouna lui redonneraient de la crédibilité. Alors, j'avais plus l'idée quand soudain, j'ai entendu.
Pense à moi.
Mais oui, mais évidemment, mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt à toi, Francis, puisqu'on a la même passion dans la vie. Francis se présente donc aux législatives contre Manuel Valls à Évry. Il est plus exactement suppléant de Jacques Bory du mouvement citoyen 100%. Et jamais une info ne m'avait autant donné envie d'habiter dans l'Essonne. Je pense que même l'office de tourisme devrait rajouter dans sa brochure « Voter Francis Lalanne contre Manuel Valls ». C'est l'orgasme électoral assuré. Alors Francis, je l'ai rencontré ce matin. Ah. Enfin, je dis ce matin. Voilà. Francis, vous le savez, c'est le fils du vent et du soleil. Donc, on avait rencard à 9h sur l'île Saint-Louis. Je l'ai donc retrouvé à midi, à Hôtel de Ville. C'est véridique. Et je lui ai posé des questions. D'abord, sur son adversaire principal, Manuel Valls.
Est-ce que s'il perd, vous allez lui faire une chanson de soutien?
S'il perd, je lui conseillerais de faire ce qu'il n'a jamais fait jusque-là, c'est-à-dire de réaliser ce qu'est vraiment la vie civile.
C'est pas ma question, Francis. Attention, vous devenez politicien, vous répondez pas à ma question.
Quelle était votre question?
Est-ce que vous allez lui faire une chanson de soutien?
Une chanson de soutien? Non. Ah. En revanche, je...
Ce qui va être triste.
Non, mais écoutez, je lui conseille d'écouter mes chansons. Il en trouvera certainement une qui lui conviendra, parce que mes chansons sont souvent tristes.
C'est vrai.
Mais
laquelle lui conviendrait le mieux, tiens?
Rentre chez toi.
Et il l'aime pas, hein, comme beaucoup de Français d'ailleurs, hein, qui ne peuvent plus saquer Valls. C'est même à se demander si se présenter contre lui, c'est pas une solution de facilité. Dans un sondage, il est quand même donné perdant contre Francis Holm et impiétable. Hein, il en est là, Manuel Valls. Mais bon, plutôt que de faire du Manu bashing, soyons constructifs et écoutons le discours de Francis.
J'ai toujours dit qu'on est fort de ses faiblesses. Dans la majorité, on a...
Ça, attention, parce qu'on dirait du Macron.
Je ne sais pas, je connais pas assez le discours de notre... nouveau jeune monarque.
En tout cas, Il dit des phrases comme ça.
Alors peut-être qu'il a beaucoup écouté Francis Lalanne. J'ai un petit peu d'ancienneté par rapport à lui.
Ah, ça c'est une théorie qui se défend par contre. Les discours de Macron seraient pompés sur les chansons de Francis Lalanne. C'est vrai qu'Anathème, Galimatia, il y a une proximité sémantique. Mais c'est la seule, hein, je vous le dis, parce qu'il n'est pas en marche du tout, Francis Lalanne. De toute façon, avec des cuissardes, c'est pas pratique. Alors je veux pas faire de Macron bashing non plus, mais je veux pas faire du Francis loving. Alors j'ai posé les questions qui fâchent. Est-ce que Francis ne va pas être grisé par le pouvoir une fois qu'il sera dans les ors de la République?
Combien de fois on a vu des hommes modifiés par le pouvoir?
C'est ça, c'est pour ça que ça m'inquiète.
Écoutez, pourquoi échapperais-je à la règle?
Enfin, oui, alors.
En tout cas, je ne le souhaite pas. Je défends un paradigme où on est au service et pas où un paradigme où on se sert des autres. Voilà.
Ah, mais après, une fois que vous aurez la voiture de fonction et tous les avantages...
Non, personnellement, je n'aurai pas de voiture de fonction.
Ah, mais il disait ça avant les autres.
Oui, ils disent ce qu'ils veulent, mais moi, en tant que suppléant, je n'aurai pas de voiture de fonction. En tant que suppléant, c'est moi qui dois trouver une voiture pour balader Jacques.
Vous n'aurez même pas une Kangoo de fonction, rien du tout?
Même pas un Vélib de fonction.
Mais à surveiller quand même, hein, même si c'est vrai, les propositions du mouvement 100% sont plutôt écolo. Du type vraiment écolo, attention, hein, pas les écolos qui militent pour l'amour libre et qui finissent toujours par se faire baiser par le PS, hein, tous les 5 ans, les vrais écolos, mais restons vigilants, le pouvoir isole, on le sait, il y a un risque d'être déconnecté du réel. D'ailleurs, en parlant de ça,
Francis, le prix d'un pain au chocolat?
Je ne mange pas de pain au chocolat et je ne mange pas de pain, je suis allergique au gluten.
Commencez pas à noyer le poisson, Francis.
Non, mais 60 centimes d'euros, un truc comme ça.
60 centimes d'euros le pain au chocolat?
J'en sais rien, franchement.
Vous êtes complètement déconnecté du réel, Francis.
Non, je ne suis pas déconnecté du réel, je suis déconnecté du pain au chocolat.
Ah, il est fort, il est prêt pour les questions de Bourdin. Tant mieux, parce que je vais vous dire, il a le mérite d'y aller. Hein. Moi, je vais vous dire, peut-être qu'avec Francis à l'Assemblée, les questions au gouvernement dureront 8 heures. Peut-être qu'elles finiront par un feu de camp au milieu de l'hémicycle en chantant l'article 206 du Code civil. Ok, peut-être. Mais je sais pas si c'est plus ridicule que tous ceux qui actuellement cumulent les mandats électoraux, quand c'est pas les mandats de dépôt ou les mandats cash, ou
ceux qui courent à la soupe même pas bio d'Edouard Philippe, hein, hashtag Nicolas Hulot, hashtag j'ai mis mes rêves dans mon cul pour rouler avec un gyrophare et des motards. En termes de ridicule, il me semble qu'ils n'ont pas de leçon à donner, ceux-là. D'ailleurs, laissons le mot de la fin à Francis.
Considérer d'emblée que parce que j'étais chanteur, ma candidature était grotesque. Ben moi, je pense pas que ce soit ma candidature qui soit grotesque, mais c'est ce genre d'argument qui me semble grotesque.
Complètement d'accord avec Francis. Hein. S'il y avait plus de gens comme lui, je vais vous dire, à l'Assemblée, peut-être que ce serait quoi ?
Ce serait la maison du bonheur.
Merci Guillaume Meurice. Et on va suivre, évidemment.
Ah oui, moi,
Francis Lalanne. On va même regarder ses propositions, etc. Parce qu'il y a des propositions écologiques. Donc, il se présente sous quelle étiquette ?
Alors, c'est le mouvement 100%, ça s'appelle. Ils ont un site internet.
Exactement. Aller, mouvement écolo.
Mouvement écolo, citoyen et écolo. Il se présente comme ça. Ouais.
Et je rappelle que face à Balladur, il y avait Bernard Ménez, il fut un temps. Voilà, Lalanne, c'est pourquoi pas, évidemment.
Mais bien sûr.
Allez, vous êtes sur France Inter et nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Vanier. On va aborder cet autre sujet que vous attendez tous, n'est-ce pas ?
Ah, la tomate !
La tomate.
Moi, je suis venu que pour ça aujourd'hui, c'est important.
D'après un livre d'enquête qui vient d'être publié, la mafia a la main mise sur la sauce tomate industrielle fabriquée en Italie. Mais les tomates viennent de Chine ou de Californie. Voilà. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui consacre une page aujourd'hui et qui nous explique que la sueur des ouvriers et le sang des récalcitrants coulent pour relever nos pattes. Ça s'appelle l'agromafia.
Je suis Tomate, le gérant de la partie.
Bonjour.
Enchanté. Mais qu'est-ce que c'était que cette fusillade ? On ne se serait pas permis de vous flinguer sur le domaine ?
Eh ben, on s'est permis.
Tomate ?
Oui ?
Tu devrais envoyer Freddy faire un tour. Il y a une charrette dans le parc avec deux gars dedans. Ça fait désordre. Où sont les autres ?
Quels autres ?
Les mecs qui faisaient des scandales.
Du scandale ici ? J'aimerais comprendre.
Qu'est-ce que c'est que cette embrouille ?
Un extrait de...
Ton flingue.
Évidemment, voilà. La mafia blanchit l'argent grâce à la sauce tomate. Donc, il y a un livre qui vient de paraître qui s'appelle « L'Empire de l'or rouge », écrit par Jean-Baptiste Mallet, paru chez Fayard. On en parle dans Le Parisien aujourd'hui en France. Ce genre d'enquête sur les produits qu'on a dans nos armoires, Jean-Jacques Vanier, c'est de nature à vous faire changer vos habitudes d'achat ? Vous regarderez plus votre flacon de ketchup de la même manière ?
Effectivement, depuis ce matin, je le regarde différemment. Enfin, et vous voulez que je vous dise la marque ? J'achète toujours le même depuis 10 ans. C'est le Barilla Basilico.
Ah, voilà.
Salaud ! C'est le pire.
Donc, oui.
Bon, est-ce qu'il y a de la tomate chinoise là-dedans ?
Bah, c'est sûr,
c'est
sûr et certain.
C'est probable, c'est probable.
Non, mais Barilla, le patron, c'est celui qui avait eu des propos homophobes au moment du mariage pour tous en France. Donc, si vous pouviez boycotter, ça arrangerait tout le monde.
Mais d'accord.
C'est radicalisé, hein, France Inter. Vous rendez pas compte, Jean-Jacques.
Des consignes d'achat.
D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut que j'achète ?
Je sais pas, là, un petit Biocop en bas de chez vous, vous allez trouver, vous d'accord. Allez voir.
Je sais pas. Ouais, la faire soi-même, la sauce tomate. Ah, mais alors, pas l'hiver.
Vous êtes gentil, vous n'avez pas planté les tomates.
Ah non, mais vous achetez les tomates chez le primeur.
Et qui viendrait pas de Chine, peut-être.
Faites votre tomate.
C'est clivant comme sujet. Non,
vous avez choisi un sujet difficile.
Quand vous achetez vos tomates chez le primeur ou même au supermarché, c'est écrit d'où ça vient.
Normalement, oui.
Alors, mais déjà, les tomates françaises, c'est mieux. C'est pas parce que. C'est parce que c'est local, c'est le circuit court.
Ouais,
non, ça a l'air compliqué comme raisonnement, Charlie. Je suis pas convaincu, moi, personnellement.
Jean-Jacques Vanier s'en sort.
Jean-Jacques Vanier, est-ce que vous traitez. Non, mais on vote chaque jour.
C'est pas tellement qu'elle soit chinoise, en fait.
Ah non, on s'en fout.
C'est de savoir ce qu'il y a dedans.
C'est ça.
C'est comment elles sont
hormonées,
poussées. Mm-hmm. C'est un peu des athlètes russes, quoi. Oui.
Et surtout, quelle musique elles écoutent, les tomates. Parce que vous savez qu'il y a un truc.
Ça, c'est peut-être en deuxième joie.
Attendez, ça m'intéresse. Allez-y.
Il y a des gens qui ont analysé que les protéines émettaient de la musique et que quand on joue, quand on met des haut-parleurs dans des serres, on n'a plus besoin de pesticides. Les plantes, en écoutant la musique, se guérissent.
Sauf si c'est du Pascal Obispo, elle meurt. Là, c'est compliqué. Faites gaffe à la musique, quand même.
Dédé, il y a ton dealer sur Twitter qui dit rentre à la maison, apparemment.
On sait tous que les tomates ou les fraises du sud de l'Espagne, les récoltants sont un peu des esclaves modernes, donc on fait attention, les fraises qui viennent de Huelva, etc. Est-ce que vous faites gaffe à ça depuis qu'on est plus informé sur la provenance, tout ça ?
Oui, je fais gaffe, évidemment. Ouais. En même temps, je ne suis pas non plus... j'y vois pas bien.
Moi, ce qui m'intéresse, parce que le côté...
L'envol de la tomate.
Non, non, les étiquettes, c'est écrit petit.
Vous faites partie de ces humoristes qui peuvent partir de n'importe quel sujet pour en faire un sketch et partir dans l'absurde. Quand vous voyez un titre comme « La tomate pourrie par la mafia », est-ce que c'est le genre de truc où vous vous dites « C'est beaucoup plus drôle que la formation du gouvernement ?» Moi, pour
ben, ça
peut, moi.
Oui, ça me fait partir. Là, j'étais parti sur une comparaison avec les athlètes russes en me disant, voilà, il y a quelque chose, on met des choses dans les athlètes russes, mais c'est pas grave parce qu'on les mange pas, nous, les athlètes russes. Et on met d'autres choses dans les tomates, et là, c'est plus grave parce qu'on les mange, et puis, tu vas pas
non plus. Peut-être on met des morceaux d'athlètes russes dans les tomates. Peut-être c'est un.
Après, quand on retrouve du cheval dans les lasagnes, tout le monde est étonné. Et moi, je vous informe que, voilà, il y a de la sueur, du sang et des larmes dans la tomate industrielle. Mais bien sûr. Je vous renvoie à cet article et à cet ouvrage. Qui a l'air passionnant,
ouais, je si livre, l'air de vous en foutre.
Mais moi j'aime bien. Dites donc, il serait pas 17h46 sur France Inter, ouais. Et là je donne la parole à celui qui a eu le courage, il faut le dire, de dire non à Europe 1, parce qu'Europe 1 ne lui a rien demandé. Voici Pablo Mira. Oui. Pablo, vous revenez aujourd'hui sur la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques en 2024.
Exactement, Charline. Dans 3 mois, on saura enfin quelle ville accueillera les JO de 2024. Alors d'un côté, on a Paris, soutenu par 64 millions de Français. De l'autre, Los Angeles, soutenu par 2 millions de Parisiens. Ces derniers jours, c'était donc Opération Séduction. Vous l'avez peut-être suivi, Opération Séduction avec les membres du CIO qui ont passé 3 jours dans la capitale, et apparemment ils ont été enchantés par la ville, selon les retours de la presse, ce qui veut dire qu'une seule chose: Anne Hidalgo a réussi à ce qu'il n'y circule pas en voiture entre 8h du matin et 23h. Sans doute aussi, peut-être, que quelque part, la maire de Paris a su se montrer pédagogique et rassurante envers le comité olympique sur les points qui les inquiétaient le plus. Alors il y a la menace terroriste, évidemment, la pollution de la Seine et les dérapages racistes des commentateurs de France 2. En tout cas, ce serait vraiment, moi c'est mon point de vue, ce serait vraiment une chance folle d'accueillir cet événement. Tout le monde rêve dans sa vie d'assister à des exploits sportifs incroyables. Je pense par exemple, là, plus personnel, aux 10 km en eau libre dans la Seine, qui verraient les plus grands nageurs de la planète défier nos meilleurs staphylocoques dorés. Je vais vous dire, ce serait aussi logique que notre capitale soit retenue pour organiser ces Jeux, parce que Paris, c'est la ville du sport par excellence. Moi, par exemple, à mon échelle, je pratique l'escalade, la boxe, l'apnée, et tout ça en même temps chaque matin dans une rame du RERB. Même notre nouveau Premier ministre, Édouard Philippe, est féru de sport, puisqu'il pratique aussi la boxe anglaise. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, comme Charline, la boxe anglaise, c'est juste les poings. La boxe française, c'est les pieds et les poings. Et puis la boxe parisienne, c'est uniquement avec le majeur de chaque main. Jab, crochet du doigt. Au-delà de la fibre sportive... Au-delà de la fibre sportive de la France, Paris a un dossier en béton. Quand on se penche sur le dossier, on a le meilleur système de transport en commun qui permettra à chacun d'accéder à tous les sites olympiques en à peine 20 minutes de retard. On a aussi une formidable capacité d'accueil, de logement, et ce serait, je le dis, un honneur d'ouvrir toutes ces places qu'on refuse à ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Franchement, je vois pas ce qui pourrait coincer dans notre dossier, à part peut-être ce petit point noir qui s'appelle la menace terroriste, je l'ai évoqué plus tôt. Mais bon, Los Angeles n'est pas à l'abri non plus, et puis au moins ici, en cas d'attaque, on a l'avantage d'être assez mince pour courir plus de 30 mètres sans avoir de point de côté. Pour tout vous dire, à mon avis, c'est même très peu probable qu'il y ait d'attaque, des attentats pendant les JO, tout simplement parce que les terroristes ont compris que pour faire du mal à la France, il suffit de laisser n'importe quel sportif français participer aux épreuves d'athlétisme. Ici, dans l'équipe, on y croit dur comme fer. Alors, si autour de la table, on est tous enthousiastes, ça se sent même à l'antenne, sur l'organisation des Jeux à Paris, moi, j'aimerais savoir ce que vous, derrière votre poste parisien, parisienne, vous en pensez. Et d'ailleurs, je crois qu'on a David avec nous. Salut, David.
Mais putain, tu vas l'avancer, ton tas de merde, enculé !
Ouais, ça va pas mal, David. Merci de poser la question. Alors, David, pour ou contre les JO dans ta ville ?
Bah, moi aussi, je t'emmerde, connard. Non, mais va chier dans ta caisse et me casse pas les couilles.
Ouais, c'est noté. Plutôt favorable, donc, aux JO, si je comprends bien, David. Merci pour ton témoignage. À bientôt.
Mais putain, mais ta gueule, mais putain.
Ouais, salut. Ouais, heureusement, Charline, qu'au collège, j'ai fait parisien LV2 pour le comprendre. Pour conclure, je crois que là, Paris est enfin prête pour accueillir les JO. Je crois que la victoire est à portée de pot de vin. Mais si nous perdons, et ben vous savez quoi? Moi, je dis, respectons l'esprit olympique. Comme le dirait n'importe quel athlète français digne de ce nom, dans un cas de défaite, l'important, c'est pas de gagner, mais de participer. Et voilà, malgré une douleur que j'ai ressentie à l'entraînement. Mais bon, quatrième, c'est déjà une belle performance. Et puis le coach était content. Alors maintenant, faudra vite se remettre au travail pour revenir plus fort dans 4 ans. Allez, salut Charline.
Merci Pablo Mira. C'est tellement ça. Jean-Jacques Vanier, vous êtes avec nous jusqu'à 18h et vous nous offrez la 1000e et la dernière de votre spectacle L'envol du pingouin à l'Olympia le 6 juin. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr vous êtes sûr ce sera la dernière? Certain?
C'est problématique.
Ouais. Ah oui. On n'est jamais
c'est
sûr.
C'est problématique
quand même.
Parce que le fait de faire l'Olympia, ça suscite des engouements. Donc il y a des gens qui se mettent à le vouloir.
Puis 1013, c'est aujourd'hui.
Et puis voilà,
1014,
non, mais en
c'est
même temps,
aussi.
C'est pas non plus la 1000e pile.
Ah, oh, le salaud!
Oh, le marketing! Non,
c'est peut-être, mais tu vas pas mettre 1002e sur ton affiche, quoi. Tu vas pas mettre non plus 998e. Donc t'as arrondi, tu mets 1000 et. Et puis non, mais c'est surtout la décision après pour moi de clore et de passer à autre chose.
De fermer une parenthèse.
Après, si on me le demande, j'irai.
Oh, oh
si on oui, met mais c'est évident, c'est
à
évident.
De pot de vin.
Mais il y aura autre chose après quoi.
Il y a un nouveau spectacle qui se prépare.
Ça fait 2 ans déjà.
Ah, il va être prêt.
Avec François Rollin, toujours.
Toujours.
On va aborder ce dernier sujet avec vous, Jean-Jacques Vanier. Bruxelles a installé des feux de signalisation avec 2 bonhommes de même sexe, 2 garçons au feu rouge qui deviennent 2 filles au feu vert. Et plusieurs plusieurs villes ont adopté des passages piétons aux couleurs arc-en-ciel. La lutte contre l'homophobie ambiance nos villes. Cette fois-ci, c'est des villes.
Bon nombre d'usagers considèrent le contexte routier comme rébarbatoire. Pourtant, la chaussée peut parfois être un lieu de rencontre bien agréable. En effet, amour ne rime-t-il pas avec carrefour? La bagatelle, c'est bien joli, mais le code est formel. Rouge, je stoppe. Vert, je redémarre. Bonne route.
Merci, c'était un micro-programme de la RTBF avec Manu Taureau, ça s'appelait Faux Contact. Voilà pour cette initiative de la ville de Bruxelles qui a, dans 7 carrefours, placé ses feux de signalisation. La lutte contre l'homophobie qui passe par des feux de signalisation, c'est de nature à vous plaire ça Jean-Jacques Vanier? C'est rigolo quand même.
C'est rigolo mais c'est pas sans risque quand même.
C'est-à-dire?
Bah, tu vois deux mecs qui sont arrêtés... au feu, ils attendent de traverser, ils voient deux filles en rouge, ils se disent tiens, c'est interdit aux nanas, ils y vont et bing.
Il peut y avoir un problème d'interprétation. Ou alors, ne peuvent passer que ceux qui se tiennent par deux par la main.
Voilà.
D'accord. Parce qu'il n'y a rien de moins sexy qu'un feu de signalisation, dans le fond, à part un parc-mètre. Donc, y est...
Ouais, c'est une façon de voir les choses. Vous trouvez ça pas sexy, un parc-mètre?
Ça,
c'est une vraie question pour vous, Vanille.
Il
faut faire 4 minutes.
Vous avez raison, c'est subjectif. Le parc-mètre,
enfin,
est-ce un objet
sexy? Les parc-mètres à l'ancienne, ils ont un petit côté phallique.
C'est excitant.
Ouais. C'est vrai, un parc-mètre avec un corset, ça peut passer.
Un ordinateur, j'ai pas.
Alors... Disons Manoukian au réveil alors, pour trouver vraiment un truc pas du tout sexy.
Si je trouve sexy.
Si vous saviez.
La question qu'on se posait ce matin au bureau, c'est de se dire, est-ce que en France, on ferait ça au milieu de Paris? Quel serait le retour des Parisiens? Il y aurait peut-être directement Civitas et
Sens Commun,
et Sens Commun qui viendraient se plaindre et arracher les passages piétons. Alors qu'en Belgique, bon, bah, ça met des couleurs dans la ville. Si ça tombe, les gens ne savent même pas ce que c'est.
En même temps, il y a 8 feux, quoi.
attendez, c'est Bruxelles, hein, c'est pas Paris. Hein.
C'est les 8 feux de Bruxelles.
C'est les 8 feux de Bruxelles, évidemment. Jean-Jacques Vanier, l'humour qui est au service, la création même qui est au service d'un combat, c'est quelque chose, j'imagine, qui vous parle. Est-ce que vous avez déjà été amené à mettre votre créativité ou votre humour au service d'une cause?
Oui, évidemment. Et même des fois de manière très sérieuse. J'ai écrit des textes très sérieux sur le monde du travail. J'ai écrit l'année dernière un hommage à 27 27 fusillés communistes assassinés en 1941. J'ai écrit des trucs très sérieux, très engagés, mais là c'est plus, je suis pas dans l'humour, j'ai pas 27 fusillés communistes.
Oui, non, c'est difficile.
On rigole pas avec ça.
Jean-Jacques Vanier, nous avons un petit exercice de fin d'émission à vous proposer.
On propose toujours un sketch à l'invité, il découvre le texte, il arrive chaussé vos lunettes. Vous êtes David Pujadas parce qu'il a appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui après bonnes et longues années de
loyaux
service.
16
ans de 20 heures. Ce sera plus lui. Delphine Ernotte et Michel Field ont dû lui annoncer. Comment ça s'est passé? Bah évidemment, on était dans le bureau.
Oh, je fais Delphine Ernotte.
Ben oui.
Bonne nouvelle.
C'est comment, juste pour me rappeler, c'est comment la voix de Pujadas?
Ce sera comme vous choisirez.
Oui, oui, faites le vôtre. Moi, je choisis ma voix de Delphine Ernotte. Bonjour, mon petit David.
Bonjour, madame.
Oui, alors je te conseille de t'asseoir.
J'ai l'habitude. 15 ans que je le suis, tous les jours, 20 heures.
Voilà, exactement. C'est même de ça qu'on va vous parler.
Voilà, on aimerait te proposer d'autres défis.
Nouvelle émission, génial.
Oui, alors entre autres, ouais. Je dois vous dire qu'on hésite. On aimerait faire un top chef de la coiffure.
Ah non, ça je ne peux pas, non. Laurent Delahousse va être jaloux.
Ah, alors peut-être on avait pensé à On n'est pas couché.
Ah oui, la place de Yann Moix, voilà. Il faut critiquer les gens, il faut avoir de la répartie.
Mais je fais l'émission politique.
Ouais, t'as raison, non, c'est pas fait pour toi.
La météo, tiens, ça vous dit la météo?
Ah oui, toi qui rêvais de faire du journalisme de fond, vraiment.
Là, c'est de fond vert, mais bon, je veux pas faire la météo et le 20h.
Ah, là, il veut pas comprendre.
Pas comprendre, hein, alors comment te dire?
Peut-être que je pourrais faire envoyé spécial.
Ouais, ce serait plutôt renvoyé spécial, du coup.
Comment ça?
Alors justement, alors comment le dire subtilement, faudrait que t'arrêtes de prendre racine, prends plutôt tes ailes pour, je sais pas, un rendez-vous ailleurs en terre inconnue.
C'est pas clair.
Bon, bref, vous êtes viré.
Voilà.
Ah, c'est beaucoup plus clair.
Voilà. Oui. Donc nous, on veut bien te retrouver quelque chose.
Voilà, alors on avait pensé à Fort Boyard, par exemple.
Bon, arrêtez avec un peu des blagues sur ma taille, mais pourquoi je dois partir?
Mais le renouvellement, David.
Mais Michel Drucker, il est toujours là. Vous ne lui avez rien dit.
Si, on lui a dit, enfin, il a pas entendu.
Oui. David, on va devoir y aller. Là. Delphine a un autre rendez-vous après.
C'est oui.
Ah là, bah oui, bah il est déjà là. Hein.
Oui, il est là, oui.
Mais moi, je fais quoi?
Je sais pas. Postule chez Hanouna, je sais pas.
Enfin, quitte à passer les plats du 20h, autant passer les plats de nouilles. Hein.
Voilà. Oui, Hanouna, c'est oui, il m'a déjà viré, Hanouna, oui.
Oui, bon, alors on va le faire rentrer, lui.
Oui.
Julien, tu viens? Pourquoi?
Oui, voilà, bonne question, ça.
Mais
oui.
Pour le 20h, on m'a remplacé par un journaliste. Question pour un
champion. Oui,
champion.
Et on sait.
Veux le 20h, oui.
Comment tu vas faire?
Je vais faire comme ça. Bonjour à tous. Je suis le nouveau chef du gouvernement, ancien rocardien, puis jupéiste, puis passé chez Veolia. Je suis la girouette. Je suis.
Engagé.
Oui.
Et oui. Jean-Jacques Vanier, qu'est-ce qu'on vous a pas fait faire? Oh là là.
On
vous aura tout fait faire. La sauce tomate, David Pujadas, vous êtes passé par toutes les couleurs. Merci.
De rien, merci.
Je suis
honorifié.
C'est nous qui étions flattés de vous recevoir, Jean-Jacques Vanier, habitué de la maison, grand maître des humoristes. Vous avez pris une leçon, hein, là.
Oui, si vous avez commencé le seul en scène, allez voir L'Envol du Pingouin.
Eh oui, la millième ou millunième, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, spectacle culte que vous pourrez voir à l'Olympia le 6 juin à 20h30, avant d'aller voir d'autres choses. Certainement, le prochain spectacle de Jean-Jacques Vanier. Merci Jean-Jacques. On va laisser le mot de la fin au nouveau gouvernement, passé au scanner de la probité.
Entre parenthèses, j'espère que vous avez casé tout ce que vous vouliez caser, hein, parce que moi je compte pas accueillir les oncles, les tantes et toute l'équipe.